Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'Iran a vivement critiqué ce mardi les nouvelles sanctions prises à son encontre par l'Union européenne. La Turquie a enterré ce lundi les 6 victimes de l'attentat survenu dimanche dans la grande rue commerçante d'Istiklal à Istanbul. Des frappes iraniennes contre des Kurdes irakiens ont fait un mort et 8 blessés. Le président français a officialisé la semaine dernière la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Elle avait commencé en août 2014 pour lutter contre les groupes armés djihadistes de la région. Notre invité sera Sédic Abba, journaliste, auteur, spécialiste des questions africaines, spécialiste du Sahel. 15 ans de prison ferme assorti d'une amende d'1 million de dinars à l'encontre de l'ancien président de la Sonatrach en Algérie, Abdelmoumen Ould Kadour. Il est reconnu coupable de corruption. Le sommet du G20 à Bali en Indonésie, la guerre en Ukraine ne figure pas à l'agenda officiel, mais elle domine la réunion internationale après 9 mois de conflit. L'invité de Pluriel, ce lundi soir, était Anas Kazib, cheminot, syndicaliste Sudrail, porte-parole de Révolution Permanente. Il évoque notamment l'arrivée à Toulon des 230 passagers de l'Ocean Viking, extrait dans votre édition. Le Conseil de l'Union européenne a adopté de nouvelles sanctions ciblant 3 entités et 29 personnes responsables de violations graves des droits de l'homme en Iran dans la répression violente en cours, une annonce du Quai d'Orsay. Paris souligne que parmi ces nouvelles désignations se trouve notamment la télévision officielle, une entreprise responsable des blocages d'Internet en Iran et plusieurs chefs de la police et des gardiens de la révolution impliqués dans la répression au niveau national et au niveau local. Des mesures qui viennent compléter les sanctions adoptées le 17 octobre dernier. Des sanctions vivement critiquées par Téhéran. La Turquie a enterré ce lundi les 6 victimes de l'attentat survenu dimanche dans la grande rue commerçante d'Istiklal à Istanbul, attentat attribué par les autorités au mouvement kurde du PKK, mouvement qui dément toute implication. Cette attaque a aussi fait 81 blessés. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 22 suspects, dont l'auteur présumé de l'attentat. Des frappes iraniennes contre des Kurdes ont fait un mort et 8 blessés au Kurdistan irakien. La mission des Nations Unies en Irak a condamné ces nouvelles attaques de drones et de missiles au Kurdistan qui, souligne-t-elle, violent la souveraineté de l'Irak. L'Iran a confirmé des frappes contre ce que Téhéran a qualifié de groupe terroriste basé dans cette région autonome. Emmanuel Macron a récemment officialisé la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Elle avait commencé en août 2014 pour lutter contre les groupes armés djihadistes de la région. Les soldats français avaient quitté le Mali en août dernier. Quelques 3000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Sur la situation et la coopération sécuritaire dans la région et sur la puissance des groupes terroristes, entretien avec Sédic Abba, journaliste, auteur, spécialiste des questions africaines et spécialiste du Sahel.
La situation, elle est à la date d'aujourd'hui beaucoup très dégradée, puisque depuis que le dernier soldat français a quitté le Mali le 15 août dernier, la situation ne s'est pas améliorée dans la zone de 3 frontières. Et les emprises françaises qui avaient été rétrocédées aux forces armées maliennes n'ont pas été totalement réoccupées par les forces armées maliennes. Et du coup, on se retrouve dans une configuration où l'espace qui a été libéré a été réoccupé par le groupe djihadiste. Il y a un regain d'activité de la part de l'État islamique au Grand Sahara qui est très présent dans cette zone et on a assisté dernièrement à des affrontements entre l'État islamique au Grand Sahara et le mouvement de salut de l'Azawad, le MSA, qui a essayé d'empêcher l'État islamique de gagner du terrain et ces affrontements sont meurtriers. Depuis le mois de mars à aujourd'hui, on dénombre à peu près entre 700 et 1000 personnes qui ont été tuées justement lors de ces affrontements. Et du côté du Burkina, on n'a pas d'amélioration non plus comme on a pu le constater. Le premier coup d'État qui a été fait en janvier 2024 était censé ramener une amélioration de la sécurité au pays et finalement, à la fin du mois de septembre, un deuxième coup d'État s'est produit parce que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Et à la date qu'il est, on pense que au moins 40% du territoire burkinabé échappe au contrôle de forces armées burkinabées. Il y a une relative amélioration du côté du Niger, où il y a moins d'attaques que par le passé. Mais là aussi, ça peut s'expliquer par le fait que l'armée française, en se désengageant du Mali, s'est installée sur la frontière sur la frontière entre le Mali et le Niger, et elle participe aujourd'hui avec l'armée nigérienne à des opérations qui ont permis de sécuriser, en tout cas d'améliorer la sécurité dans cette partie, puisque la nouvelle doctrine sur le partenariat de combat, ça veut dire que les militaires français et les militaires nigériens combattent côte à côte, mais globalement, la situation sécuritaire reste très préoccupante, avec le risque d'extension, si ce n'est déjà fait, aux pays du Golfe de Guinée, à savoir le Togo, le Bénin, qui ont déjà été attaqués plusieurs fois, et même le Ghana a subi une attaque.
Et vous évoquiez la situation au Burkina Faso, où plus de 4000 écoles sont fermées à cause des attaques terroristes, et c'est ce qu'indiquent les autorités burkinabées.
Oui, absolument. Il y a des centaines, des milliers d'élèves burkinabés qui ne peuvent plus aller à l'école du fait de l'insécurité, parce que l'école est devenue une cible privilégiée des djihadistes, et les enseignants plusieurs enseignants ont été assassinés par les groupes djihadistes qui ne veulent pas de l'école occidentale, au prétexte que cette école-là, cette forme d'école en tout cas, amène les enfants, entraîne le dévoiement des enfants, fait égarer les enfants. Donc ils s'en prennent particulièrement à l'école comme symbole, l'école est particulièrement visée, et c'est la situation au Burkina se retrouve aussi du côté du Mali et du Niger. Dans toute cette zone de trois frontières qui est commune entre au Niger, au Burkina et au Mali, des centaines de milliers d'élèves ne vont pas à l'école, et l'UNICEF a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme. Mais tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école, et tant qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de progrès. Aujourd'hui, on évalue surtout le nombre de victimes, les infrastructures qui sont détruites, mais c'est des générations d'Africains de cette partie de l'Afrique qui ne vont pas aller à l'école, et ça va se ressentir, je crois, dans le développement de ces pays dans les prochaines années.
C'est important, vous mettez en lumière l'accès à l'éducation qui est impacté par la dégradation de cette situation sécuritaire.
Oui, absolument, très important. Et ça amène aussi à ce qu'on dit souvent, en tout cas des gens comme moi disent, que la solution à la crise au Sahel, et particulièrement dans la zone des trois frontières, n'est pas que sécuritaire et militaire. Elle a besoin aussi qu'on intègre la dimension développement de ces zones-là, la dimension bonne gouvernance, la dimension, parce que l'injustice sociale et l'absence de bonne gouvernance alimentent aussi le terreau, crée un terreau favorable au groupe djihadiste qui essaie d'instrumentaliser ce type d'argument pour recruter notamment des jeunes qui n'ont pas de perspective ou qui n'ont plus confiance à la forme de l'État qui est censé, et puis il y a aussi l'absence de l'État. Donc si on veut apporter une solution, il faut sans doute incontestablement avoir la question militaire et sécuritaire pour rétablir un minimum d'ordre et de sécurité, mais il ne faut pas oublier non plus la question développement, la question retour de l'État et la question bonne gouvernance.
Et quels sont les principaux partenaires de ces pays du Sahel aujourd'hui, suite au départ des forces françaises concernant la coopération sécuritaire?
Particulièrement, le Mali a contracté une société de sécurité russe qui est connue sous le nom de Wagner, qui est son partenaire, et il y a aussi la Russie en tant qu'État. Donc il y a une coopération bilatérale avec la Russie qui est doublée d'un partenariat avec Wagner pour le Mali. Donc il y a une situation un peu particulière au Mali, mais qu'on ne retrouve pas au Niger et au Burkina. Parce que en dépit des appels de certains milieux à un partenariat avec la Russie, pour l'instant, le Burkina et le Niger n'ont pas cédé à ces sirènes du partenariat avec la Russie. Et du coup, aujourd'hui, les risques se trouvent au Mali. Et malheureusement, ceci a eu pour conséquence d'affaiblir la coopération entre les pays de cette zone de trois frontières. Puisque le Niger estime ne plus pouvoir coopérer directement avec le Mali, puisque le Mali a de nouveaux alliés qui ne peuvent pas, avec lesquels il ne peut pas travailler. Et du coup, bon, avec le Burkina, il y a eu quelques opérations conjointes avec le Mali, mais l'arrivée de ce nouveau partenariat a un peu comment dire, a un peu déstabilisé la coopération sous-régionale. Et c'est ça, un des plus grands impacts. Si les conséquences ne se limitaient qu'au Mali, on pouvait comprendre, mais l'arrivée de la Russie, l'arrivée de Wagner, a un peu déstabilisé la coopération. Par exemple, entre le Mali et le Niger, il n'y a plus de coopération militaire. Or, la zone des trois frontières entre le Niger et le Mali est essentielle si on veut obtenir des résultats dans la lutte contre le terrorisme. C'est que les terroristes ont compris les mauvaises relations entre le Niger et le Mali. Ils peuvent faire des opérations au Niger et revenir au Mali. Ils peuvent faire des opérations au Niger et aller au Mali et vice-versa. Donc c'est ça aujourd'hui le contexte dans lequel on se trouve. Il y a un affaiblissement de la coopération régionale du fait du choix qui a été fait par le Mali de contracter des relations avec Wagner et la Russie.
Et quel est le regard de la société civile, des sociétés civiles de ces pays sur cette nouvelle situation?
Oui, et il y a les gens, vous savez, et souvent au prix d'une propagande et au prix de la déception envers les résultats. Les gens se disent que puisque depuis 9 ans, depuis 10 ans, on n'a pas obtenu de résultats, en ayant de nouveaux partenaires, on peut obtenir des résultats. Donc il y a une partie de la société civile qui pense qu'avec l'arrivée de la Russie, avec l'arrivée des nouveaux partenaires, la situation va s'améliorer. Or, concrètement, depuis que les Russes sont là, depuis que Wagner est là, il y a une dizaine de mois, les résultats ne sont pas totalement au rendez-vous. Le rapport de force avec les groupes djihadistes ne s'est pas inversé. Au contraire, il y a des territoires, de nouveaux territoires qui sont conquis. Et je pense que c'est l'espoir. Les gens sont aujourd'hui, du fait du désespoir qu'ils ont, du fait de mauvais résultats, pensent que la solution avec la Russie ou Wagner peut être meilleure qu'avec la France. Or, même si les Russes apportent, comme ils l'ont fait au Mali, des avions de combat, des transports de troupes, ça ne suffira pas parce qu'on va rester toujours sous le registre militaire. La question du développement, la question de la gouvernance ne seront pas intégrées et on n'aura pas finalement des résultats. Et une partie de l'opinion aujourd'hui est très sensible à ce discours de changement de nouveaux partenaires avec l'espoir que, puisqu'on n'a pas obtenu les résultats qu'on veut, on attendait avec la France, avec un autre partenaire, on va obtenir des résultats. Mais le fait est que dans quelques années aussi, on va constater que avec le nouveau partenaire, ce n'est pas mieux parce que le nouveau partenaire, lui aussi, il propose que l'option militaire et sécuritaire alors que la solution n'est pas celle-là.
Sidi Kaba, journaliste, spécialiste des questions africaines, spécialiste du Sahel. Il est notamment l'auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous chez Impact Édition. Trois Israéliens ont été tués ce mardi dans une attaque près d'une colonie israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'assaillant a été abattu. L'armée israélienne a fait état d'une attaque au couteau, puis au volant d'une voiture près de la zone industrielle d'Ariel. Dans le même temps, le ministère palestinien de la Santé a rapporté la mort d'un citoyen tué par des balles israéliennes dans ce secteur. Les États-Unis ouvrent une enquête après la mort de la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh. Elle a été tuée en mai dernier en Cisjordanie occupée alors qu'elle couvrait un raid israélien. Suite à l'annonce de l'ouverture d'une enquête, sa famille évoque une étape importante. L'ancien président de la Sonatrach en Algérie, Abdelmoumen Ould Kadour, a été condamné à 15 ans de prison ferme et 1 million de dinars d'amende. Décision du tribunal de Sidi Mohamed. L'ex-PDG du groupe pétro-gazier public algérien est reconnu coupable de corruption en lien avec le rachat d'une raffinerie en Italie. Le parquet d'Alger avait requis 18 ans de prison ferme. L'épidémie de choléra au Liban, 10 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Cela porte le total des cas confirmés à 546. Selon le rapport du ministère de la Santé, 18 personnes sont décédées depuis la réapparition de la maladie au Liban le 5 octobre dernier. Une épidémie qui sévit aussi en Syrie voisine. L'invité de Pluriel lundi soir était Anas Kazib, cheminot et syndicaliste Sudrail, porte-parole de Révolution Permanente. Il évoque notamment l'arrivée à Toulon des 230 passagers de l'Ocean Viking, extrait de cette émission.
On a des États qui sont capables de laisser femmes, enfants, hommes, personnes âgées, personnes malades et autres sur un cargo. Je veux dire que ce n'est pas un bateau de croisière Costa Croisière ou autre avec des toboggans et des piscines à l'intérieur. C'est un bateau de sauvetage humanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de lit. De l'autre côté, ça nous fait penser à comment les Ukrainiens ont été traités. Je veux dire, par là, nous, on a encouragé le fait qu'il faut permettre à celles et ceux qui vivent notamment la guerre de pouvoir venir se réfugier. On a pu le faire. On a même pu, pour ça, pour dire, depuis la SNCF, on a donné gratuitement des tickets pour pouvoir circuler et même des billets de TGV gratuits aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. Et je m'en félicite. C'est très bien d'avoir fait ça, même de leur avoir trouvé des logements et du boulot. Mais on voit qu'il y a un deux poids deux mesures. Il y a un deux poids deux mesures en fonction de la couleur de peau que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes européen, si vous êtes blanc de peau, eh ben on vous accueille en grande pompe dans le pays. Mais de l'autre côté, lorsqu'on est racisé, lorsqu'on a la peau noire, en fait, eh ben on vous laisse crever dans un bateau pendant 19 jours. Et oui, c'est sous la contrainte et la pression, parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron, notamment dans toute la séquence de cette phrase raciste et xénophobe du député de Rassemblement National qu'il retourne en Afrique, avec un S ou non, le gouvernement voit qu'il a pu réagir en essayant de donner une pseudo-sanction, mais par contre, il a attendu une semaine de plus avant de se décider à accueillir ces migrantes et ces migrants.
Anas Kazib, cheminot, syndicaliste Sudrail, porte-parole de Révolution Permanente. Il était l'invité de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière. Émission disponible sur radioorient.com. Le 18e sommet de la francophonie, samedi et dimanche prochain, à Djerba, en Tunisie. De nombreux chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Les autorités tunisiennes ont donné le coup d'envoi des festivités en inaugurant le village dédié à l'événement. La secrétaire générale de la francophonie a effectué ce lundi une visite au village tunisien de la francophonie. Selon les derniers chiffres de l'OIF, le nombre de locuteurs en français est passé de 300 millions en 2018 à 321 millions en 2022, une augmentation de 7% qui vient du continent africain. Le sommet du G20 s'est ouvert à Bali en Indonésie. C'est le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et c'est aussi le premier sommet à se tenir près de 9 mois après la guerre en Ukraine. Le président ukrainien a appelé les dirigeants à tout faire pour que cesse la guerre. Lors de son intervention en visioconférence et à huis clos, Volodymyr Zelensky a aussi dénoncé les menaces folles de recours à l'arme nucléaire de la Russie, selon ses mots. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.